Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois, mais aussi Margot Leridon, Bertie Bourdon, Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jérémy Kaufmann. Suite de notre série consacrée aux hommes forts, aux nouveaux hommes forts en Asie, après avoir évoqué la figure de Xi Jinping lundi, puis celle de Shinzo Abe hier et celle de Kim Jong-un demain, place au premier ministre indien Narendra Modi, le gourou du nationalisme hindou. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
C'est notre responsabilité de lutter contre tout ce qui pourrait diviser le pays. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants à tous les niveaux. Notre société a besoin d'être unie.
On ne veut pas voter pour le parti du Congrès ou le BJP. On veut juste voter pour Modi.
Il ne vient pas d'une famille princière. Il vient d'un milieu pauvre, donc il comprend les besoins des pauvres et de la classe moyenne.
C'est l'Inde qui a gagné, et la démocratie. C'est aussi la victoire du peuple. Nous pouvons désormais emmener notre pays vers de plus larges horizons et avancer vers une Inde développée en 2024.
En mai dernier, le BJP, le Parti du Peuple Indien, remportait une victoire écrasante aux élections législatives avec plus de 45% des voix contre 27% pour la liste de l'Alliance Progressiste Unie menée par Rahul Gandhi, membre du Parti du Congrès. Cette victoire, ils la doivent essentiellement à la personnalité de Narendra Modi, dont les talents d'orateur sont indéniables. En 2014, il avait mis le développement économique au cœur de sa campagne en s'appuyant sur son bilan à la tête de l'État du Gujarat, promettant de l'appliquer, d'appliquer cette même méthode à l'échelle de la nation. Mais a-t-il tenu sa promesse? Et d'ailleurs, est-ce vraiment si important? La réussite politique de Modi est aussi, et peut-être surtout, le fruit d'un discours nationaliste et identitaire très fort, n'hésitant pas à exacerber la fierté hindoue et à discriminer les minorités religieuses, et particulièrement la minorité musulmane. Alors comment Modi est-il devenu le nouveau gourou de l'hindouïté, l'hindoutva? Quels sont les fondements idéologiques de son projet politique? Quel lien entretient-il avec les mouvements extrémistes hindous? Comment son nationalisme aussi se déploie dans tous les champs de la politique, de l'économie à la culture, en passant par l'agriculture ou l'industrie? Et comment cet homme, fils d'un vendeur de thé, est parvenu à se hisser au sommet du pouvoir? Pour évoquer toutes ces questions, deux invité avec nous ce matin. Jean-Joseph Boileau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, chercheur à l'IRIS et auteur d'un certain nombre d'ouvrages. J'en ai deux sous les yeux, pardon, Chine d'Afrique qui était paru chez Odile Jacob et puis plus récemment, l'Inde ancienne au chevet de nos politiques, et ça tombe bien, on aura l'occasion d'en parler parce que ça permet d'éclairer la politique telle qu'elle est conçue, imaginée par Modi. À vos côtés, Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice du programme Asie du Sud du collectif de chercheurs Noria et puis vous êtes auteur, vous, notamment de Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine qui était paru chez Kartala. Revenons peut-être un court instant avant de refaire peut-être le portrait, le parcours de Narendra Modi. Revenons sur ces élections du printemps dernier, donc remportées par le BJP de Narendra Modi. À l'époque, c'est vrai que beaucoup d'observateurs ne croyaient pas en cette victoire, en tout cas pas dans une victoire aussi nette. Les sondages, c'est vrai, indiquaient une victoire de Narendra Modi, mais les tendances étaient en réalité haussières pour l'opposition et plutôt baissières pour Narendra Modi. Et puis il y avait un argument de masse qui était de dire que le bilan économique de Narendra Modi n'est pas à la hauteur des attentes, des espoirs des Indiens. Et pourtant, non seulement il a gagné, mais il a gagné avec une victoire absolument écrasante, largement au-dessus de ce que les sondages indiquaient. Une victoire encore plus nette que les élections de 2014. Comment expliquer cet incroyable succès et comment comprendre que les questions économiques et sociales aient été reléguées au second plan? On va commencer avec vous, Jean-Joseph Boileau.
Oui, allez. Autocritique d'un économiste, puisque dans un article qui a beaucoup circulé, je parlais des Three Mistakes of, qui reprenait le titre d'un roman célèbre en Inde. Donc il a fait trois erreurs économiques et tout le monde s'accorde à dire qu'il y a, ça a été une série d'erreurs. On reviendra après sur la personnalité qui a conduit à ces erreurs. C'est extrêmement intéressant le mécanisme, la démonétisation, une introduction chaotique de la TVA, etc. Et simplement, les économistes sont des imbéciles et le prix Nobel d'économie, là, les trois, notamment Banerjee, lui-même a beaucoup critiqué la démonétisation. Simplement, ce n'est pas l'économie qui gouverne le monde, il faut le savoir. Et justement, c'est votre série de cette semaine. Les gens, les pays ont des passions. Et lorsque l'économie se trouve comme aujourd'hui, et Maudit est le symbole un peu de ça. Il y a un retournement de l'économie mondiale. Il y a ce qu'on appelle une démondialisation. Vous voyez, je regardais ce matin, grâce à vous, ce qu'on appelle les indices d'ouverture de l'économie indienne. C'est-à-dire, on prend les exportations et les importations divisées par la richesse nationale. Eh bien, comme pour la Chine, le même phénomène. On a une démondialisation. On est monté pendant les 30 glorieuses de la mondialisation dite libérale à 60% du PIB. On en est descendu à 40 et on continue de descendre. Donc, il y a un phénomène majeur qui est que, du fait de cette démondialisation, les sociétés qui étaient critiques de la mondialisation sont un peu perdues. Et donc, elles vont chercher, effectivement, on le voit, entre guillemets, des hommes forts. Attention quand même, je corrige, la nette victoire, non. On a, en gros, un tiers de l'électorat indien qui a voté pour Narendra Modi. C'est un peu plus, effectivement, de 2014, où là, on parlait déjà de victoire écrasante en 2014.
C'est beaucoup plus.
Non, 36% il a fait cette année. Moi, ce qui m'intéresse...
Non, là, c'est 45% pour le BJP. Non,
ce qui m'intéresse, c'est le nombre de voix qui s'expriment. Vous voyez, c'est ça qui est important.
En nombre de sièges, c'est écrasant.
Ah non, mais après, c'est le système britannique.
Il est largement majoritaire. Oui, mais sauf qu'il est largement majoritaire.
Les institutions électorales, ça compte. Ouais. Le système britannique, c'est le premier qui arrive, même s'il n'a que 10% des voix, il remporte le siège. Par contre, attention, résistance des États. Pour la première fois, il y a eu un début de résistance des États. Il y a eu la remontée du parti du Congrès, c'est très net, même s'il est incapable d'offrir une alternative pour l'instant. Et enfin, j'aimerais terminer pour dire, comme l'agenda économique, ça n'a pas marché, et effectivement, il s'est tourné vers un agenda. Lequel ? En partie idéologique, mais pas trop son agenda à lui. C'est pour ça que votre émission est importante. Qu'est-ce qu'il y a dans la personnalité de Modi qui fait que, même s'il n'est pas élu majoritairement, massivement par les Indiens, il reste un personnage incontournable de l'Inde.
On va y revenir. Charlotte Thomas.
Oui, alors effectivement, il y a les institutions, mais de fait, aujourd'hui, le BJP a eu une victoire quand même, à mon sens, assez massive. Pourquoi on ne l'a pas vu ? Je pense qu'il y a aussi eu pour dire un mot très très français, du wishful thinking, où les analystes ont quand même aussi pensé que l'opposition allait réussir à se restructurer. Le Congrès, à mon sens, n'a pas été a eu un nombre de sièges un peu plus élevé, mais quand même pas très très important. Mais au-delà du seul culte de la personnalité, parce que je pense qu'il faut un petit peu se départir de cette analyse a priori, il y a aussi toute une machine BJP qui est extrêmement efficace. Il y a tout un maillage du territoire par ce qu'on appelle des workers, des gens qui travaillent sur le terrain, qui sont issus des organisations.
Des
workers, des travailleurs.
Excusez-moi, j'ai les oreilles un tout petit peu bouchées.
mais je veux dire, il y a toute une machine BJP derrière ça, une machine RSS. Il n'y a pas uniquement des discours un peu vides et de seul culte de la personnalité. Il faut aller un peu au-delà.
On va parler évidemment de ce RSS parce que c'est pareil, c'est central de comprendre cet engagement de Modi pour éclairer sa politique aujourd'hui. Mais l'une des spécificités peut-être de Modi, et en particulier quand on le compare aux autres figures qu'on a choisies cette semaine, à savoir Xi Jinping, Shinzo Abe et enfin demain Kim Jong-un, c'est que Modi est issu d'une famille modeste, d'une famille où il n'y avait pas de responsable politique. Est-ce que précisément cet élément-là, ces origines modestes, constituent un élément explicatif de sa réussite politique? Précisément le fait qu'il ne soit pas, pourtant en Inde, les dynasties, on connaît, chez les Gandhi, on a produit un certain nombre de responsables du côté du Parti des Congrès. Est-ce que le fait que précisément il ne soit pas, il soit d'origine modeste et que sa famille n'ait pas été de grands responsables politiques, est-ce que ça joue dans son succès? On va commencer avec vous, Charlotte Thomas.
Mais ça joue en fait dans la communication, surtout dans la mise en récit de ses origines modestes. Parce qu'effectivement, alors par exemple, à contrario, Amit Shah, qui est ministre de l'Intérieur, et bras droit de Modi vient d'une famille très aisée. Pour autant, il est aussi très très populaire, beaucoup moins à l'international, mais il s'en fiche un peu parce qu'à l'échelle nationale, il est extrêmement populaire. Quant à Narendra Modi, comme je disais, c'est aussi la mise en récit de ses origines modestes qui font complètement partie de ce culte de la personnalité qu'il s'attache à construire. Parce que, au-delà de ses origines modestes, très très tôt, en fait, Narendra Modi a rejoint, donc on va beaucoup y revenir aujourd'hui, mais le RSS. Donc ça fait que, de fait, il vient aussi d'un sérail politique.
Alors justement, cet engagement, il est dans le RSS, alors Rashtriya Swayam Sevak Sangh, pardonnez-moi pour la prononciation, Jean-Joseph Boileau.
C'est pour ça qu'on dit tout RSS.
Voilà, RSS, Organisation Patriotique.
Les deux dernières voyelles nous plaisent bien, donc...
Organisation patriotique nationale. Voilà. Il en sera même un Chambak Pracharak, un organisateur régional à partir de la fin des années 70. Vous nous expliquez ce qu'est ce RSS et l'importance de cet engagement dans la construction de cet homme politique, Charlotte Thomas.
Oui, alors plusieurs trucs. C'est une formation, enfin plusieurs choses, pardon. C'est une formation qui rejoint très très jeune, comme je disais.
8 ans.
Parce que en fait, la légende, parce qu'il y a aussi une part de légende, on ne saura jamais, mais il allait porter le thé. En fait, son père était un vendeur de thé. Il allait porter le thé dans les structures du RSS, et c'est comme ça qu'il s'est engagé dans ces structures. À mon sens, ce qui est important de garder.
C'est quoi le RSS ?
Voilà. Alors, ce qui est important de garder en tête, c'est que le RSS, c'est un petit peu la matrice idéologique du nationalisme hindou. C'est une organisation qui a été créée en 1925 sur le modèle des phalanges fascistes, c'est-à-dire avec également un salut au drapeau, un entraînement militaire, et surtout la nation indienne au cœur de l'idéologie. Mais attention, nation indienne conçue comme une nation hindoue, puisque dans l'Hindutva, que vous mentionnez en début d'émission, l'hindouité, on considère que seuls les hindous sont considérés comme des citoyens légitimes, les minorités chrétiennes et musulmanes étant perçues comme des corps étrangers qui doivent ou se convertir ou quitter le territoire. Donc déjà, chez Narendra Modi, on a une formation idéologique au cœur du nationalisme. Et de fait, dans ce culte de la nation, et aussi, ce qui à mon sens est marquant, dans ce sacrifice personnel pour la nation. C'est-à-dire que Modi, à une époque, enfin dans sa jeunesse, avant sa vingtaine, se demandait par exemple s'il n'allait pas embrasser une carrière de prêtre. C'est-à-dire que cet hindouisme, alors au sens religieux puis ensuite politisé, est au cœur de sa formation, ce qu'on ne retrouve pas du tout chez tous les membres du BJP. Par exemple, le premier gouvernement BJP 98-2004, on avait des membres uniquement issus du BJP à proprement parler, qui a été beaucoup plus soft, entre guillemets, sur leur rapport à l'Hindutva et sur ce rapport justement sacrificiel un peu d'entrée en mission pour sauver l'Inde.
Mais quoi, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le gouvernement indien, il y a des membres issus des rangs du RSS, dont Joseph Boileau ?
Ah bah, oui. Majoritairement. Oui. Majoritairement. Le grand changement, le BJP, donc, si vous voulez, il y a une offre politique, on intéresse un pays démocratique de ce point de vue-là. C'était soit la dynastie du Congrès, et quand même, j'aimerais revenir là-dessus pour sans arrêt pas trop charger la barque. Il faut bien comprendre que Modi, c'est aussi l'expression du rejet d'une dynastie, comme vous l'avez dit, qui gouverne l'Inde d'en haut. C'est une élite, le mot est très très
galvaudé
de nos jours, mais c'est un peu vrai, et qui n'est pas vraiment indienne. Attendez, il faut quand même faire très attention à cela. Ils font tous leurs études à l'étranger, notamment Rahul Gandhi est quelqu'un qui à peine parle le hindi et ne parle pas les autres langues régionales. Et donc, vous avez en face, effectivement, un gars qui vient de l'intérieur du pays. Vous voyez, je vais très souvent sur place. Gujarat, je connais bien, Ahmedabad, ses collaborateurs. Et on voit bien que lui, il est l'expression de cette Inde, ce qu'on appelle des two-tier cities, c'est-à-dire des villes de province qui ont souffert de la mondialisation. Et le même phénomène se retrouve dans beaucoup de pays dans le monde. Et parce qu'il est monté dans l'appareil par ses qualités propres, il y a aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on n'a pas pris un apparatchik, on a pris quelqu'un qui avait su prendre un État, ce qui était quand même très important. Le Gujarat, c'est quand même l'État, notamment de Gandhi et de tout un ensemble de milieux d'affaires. Donc on a ce phénomène où ça monte. Et alors, ça, c'est ma thèse. Vous avez le RSS qui, effectivement, ne pouvait pas s'imposer sur le champ idéologique indien pendant très très longtemps et qui va profiter de ce vacuum du pouvoir pour porter un homme. Il est derrière. Ce que dit Charlotte est tout à fait exact. C'est pas Modi qui est arrivé au pouvoir. C'est un appareil considérable, il faut les voir dans les villes de province. J'ai une belle famille qui est notamment à côté de Bhopal, et donc je fréquente cet appareil-là. Mais c'est un appareil qui est un peu comme on parle, vous savez, des frères musulmans, etc. Il est présent sur le terrain, il assure
les écoles,
etc.
Et d'ailleurs, on compare parfois RSS et frères musulmans, en tout cas s'agissant de l'assise sociale.
Mais comme on peut comparer, excusez-moi le terme, mais avec l'Allemagne nazie, la montée de l'Allemagne nazie, les premiers pas de ce parti ont été... Il y avait la crise énorme du chômage en Allemagne. On comprend quand même, la République de Weimar avait mis des millions de gens au chômage. Et le parti nazi, au départ, a commencé aussi par ça. Et le RSS est derrière. Il le pousse. Et il a besoin d'un homme. Parce que Vajpayee, qui était très populaire, qui était très modéré, était trop vieux. Il n'y avait plus de leader. Et donc, ils vont utiliser cet homme. Et on va voir ensemble tout à l'heure qui utilise qui est la vraie question.
Alors justement, mais avant d'en venir à son arrivée au pouvoir, avant de voir comment le RSS éventuellement l'a utilisé pour accéder au pouvoir, regardons le début de son engagement politique. On est dans les années 70, Charlotte Thomas. Il y a cet engagement dans le RSS. Vous parliez d'une organisation paramilitaire. Il est l'un des cadres du comité de l'État du Gujarat. Et à ce moment-là, on a une première ministre indienne, Indira Gandhi, qui vient de décréter l'état d'urgence. On a un RSS qui est interdit et un Modi qui rentre en clandestinité pour mener ses activités. Donc c'est très important de bien comprendre qu'au début de son engagement, il est dans une logique d'opposition et de résistance extrêmement forte au pouvoir central. Il faut avoir ça en tête. C'est le début de sa construction politique, ça. Avant même le Gujarat.
Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi cette sur l'opposition. Après, il y a aussi la volonté. D'ailleurs, c'est ce qui explique. Enfin, on va pas rentrer dans tous les détails, mais ce qui explique que politiquement, il a fait quelques allers-retours entre Delhi et le Gujarat avant d'être, parce qu'on n'a pas encore précisé, mais il devient ministre en chef du Gujarat en 2001. Et il est nommé par l'appareil. Il n'est pas élu, ce qui est aussi important. Donc oui, effectivement, il y a eu cette. Et puis, en fait, je trouve que au-delà même de l'opposition, ce qui est marquant dans ce parcours que vous mentionnez par rapport à Indira Gandhi, c'est la capacité d'organisation, parce que ça veut dire que sous l'état d'urgence, dans la clandestinité, il a été capable d'organiser des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est repéré aussi au sein du RSS. Parce qu'une petite chose quand même qui fait qu'il détonne au sein du RSS, c'est que déjà, dès le début de sa carrière, là je parle au sein du RSS, il se fait remarquer un peu comme le troublion, celui qui ne suit pas non plus tout le temps les ordres des supérieurs, alors que le RSS n'est pas du tout une organisation qui est centrée sur le culte de la personnalité, bien au contraire. Donc on verra après, quand on va continuer la discussion, comment lui Narendra Modi du coup renouvelle ce rapport au nationalisme hindou, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce RSS, en dépit de la mise en avant de sa propre personnalité, il continue à avancer parce que justement, il arrive à organiser une organisation dans des questions de clandestinité et à faire continuer à croître l'emprise et l'implantation du RSS au Gujarat et ailleurs dans ces conditions particulières.
Jean-Joseph Boileau, sur cet engagement dans le RSS, cette résistance vis-à-vis du pouvoir central, et puis moi j'aimerais comprendre le passage entre l'engagement dans le RSS et l'engagement dans le BJP. La chose se fait dans les années 80, son entrée dans le BJP, donc le parti du peuple indien aujourd'hui en pouvoir, à la tête duquel il est. Comment les choses se passent et pourquoi finalement il rentre dans le BJP? Parce qu'il considère que pour être véritablement, pour peser dans la vie politique, il est indispensable de quitter cette organisation un peu, j'allais dire, underground pour...
Non, mais le RSS, le BJP, attendez, c'est comme en France, vous avez le parti de droite et puis vous avez des fanges derrière, des factions, des sous-groupes, des comités, bon...
C'est quand même pas une organisation qui a pignon sur rue.
Il quitte pas le RSS, mais le RSS d'abord a été interdit, et ensuite le RSS, justement, pour ça que je répète sur le résultat électoral, le RSS n'est pas central, encore, en tout cas, pour aujourd'hui, dans l'espace politique indien, en particulier à cause de l'opposition entre le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Le RSS, c'est le parti, la secte, ce qu'on voudra, de la Indy Belt, fondamentalement. D'accord. Et les résultats des élections dans le sud, à Calcutta, même à Patna, dans le Bihar, sont beaucoup moins favorables. Non, il ne quitte pas le RSS pour rentrer au BJP.
Je me dis qu'il quittait, mais il rentre dans le BJP. Pourquoi il rentre
dans le BJP? Non, il rentre pas dans le BJP. C'est Vajpayee. Il est l'homme de liaison, d'ailleurs. C'est un homme de liaison. Il est sans arrêt dans les trains, etc. Il faut bien comprendre ce que c'est que la vie d'un militant. Et lui, en plus, est corps et âme, un militant qui passe sa vie à cela. Et donc, il est repéré par Vajpayee. Et Vajpayee lui fait comprendre...
Qui est Vajpayee?
Alors, Vajpayee, c'était le premier ministre de cette galaxie de la droite nationaliste. Je dis bien galaxie. Dans lequel il y a le RSS, mais même à l'intérieur du RSS, Charlotte a parlé, il y a des rapports un peu différents, et Modi est un homme qui a un peu son propre parcours. Et Vajpayee, lui, il réussit à gagner. En 1998, et c'est le premier quinquennat, on va dire, de l'opposition. Et Vajpayee, il a une relation extrêmement intéressante qui est racontée dans les livres, mais je pense que les journalistes ont bien fait leur travail. Il a une relation qui est très hindoue, au sens pas religieux du terme, au sens de la culture indienne, mais de type hindou. C'est ce qu'on appelle, vous savez, le gourou. En Inde, les rapports sont fondamentalement des rapports de maître à élève. C'est un gourou. Et il voit Vajpayee et il tombe vraiment, on va dire, amoureux de cet homme. Il a des ambitions, manifestement. De toute façon, il est né avec des gènes d'ambition. Et donc, il va être progressivement intégré à l'appareil du BJP, mais sans quitter le RSS du tout.
Les deux restent en lui. C'est à ce moment-là, Jean-Joseph Boileau, que vous faites la rencontre avec Modi, vous nous racontez ?
Alors, un peu plus tard.
Dans les années 90 ?
Non, plus exactement 2002-2003.
Ah, donc il est déjà au Gujarat.
Il vient de remporter.
Il vient d'arriver au Gujarat.
Il le souvenir que vous en avez. Il est nommé par l'appareil, ce qui est dit.
Je vais y revenir. Je vais redécrire la chose.
Et moi, ce qui me surprend.
Votre souvenir.
Bah, ce qui me surprend, si vous voulez, c'est qu'on avait parlé, on connaissait déjà les pogroms anti-musulmans. On savait qu'il était derrière, il y avait eu des débuts de démarches judiciaires pour l'en accuser. Et voilà, je tombe en relation d'amitié avec une sorte d'énarque, un AIS officer, ce qu'on appelle, qui travaillait avec lui tous les jours. Et puis, son mari, il s'avère que c'est son garde de sécurité personnel. Et on passe une soirée entière à parler de cela. Et je dois dire, je suis très surpris. Elle est une progressiste et elle est restée progressiste, je le sais. Mais elle est subjuguée par l'efficacité de la gestion qui tranche avec tous les autres hommes politiques indiens. Il faut bien le comprendre là encore. Modi, c'est la lecture inverse de la caricature du netti, du politicien qui est vérolé, qui se fait lécher les babouches par exemple. Il faut voir les rapports qu'il y a dans les provinces avec les politiciens. Et son garde de sécurité me dit... Ça, c'est un truc qui m'a surpris. C'était pas du tout un hindouiste, son garde de sécurité. Là encore, très laïque, très humble d'Indira Gandhi et de ses valeurs séculières. Il me dit, j'ai un respect profond pour cet homme parce que il médite. Donc, derrière la question du yoga qu'on va aborder tout à l'heure, c'est pas simplement colorful. Il y a une équation personnelle. Et le lendemain, elle m'invite à rencontrer, à participer à cette réunion qui est quand même confidentielle d'une certaine façon.
L'impression qu'il vous fait.
Ah, il est incroyable.
En quelques mots, parce que je voudrais passer la parole à Charlotte Thomas.
Il a peint un papier, il écoute tout le monde, il parle très très peu. À l'époque, c'était ça en tout cas, hein. Je ne sais pas maintenant, enfin, je vous parlerai parce que je connais quand même son premier conseiller économique. Il écoute tout le monde et il tranche en quelques secondes. C'est-à-dire, il ressemble à ce roi dont je voulais vous parler tout à l'heure, l'Arthashastra, ce roi vertueux, efficace, qui analyse très bien les rapports de pouvoir, et qui est capable de dire la priorité est au développement économique pour effacer l'affaire de, bien sûr, des pogroms.
Alors,
et l'efficacité économique, c'est construire des routes, construire des suites, construire des... Et c'est vrai que la réunion dure à peu près une heure et demie, et je comprends tout à fait pourquoi ces collaborateurs sont subjugués par l'individu.
Très charismatique donc. Charlotte Thomas, on arrive donc au début des années 2000, octobre 2001, il est désigné effectivement par le BJP pour remplacer le ministre en chef du Gujarat de l'époque, accusé de fait de corruption et puis d'autres problèmes encore. Il est d'ailleurs en charge de préparer les élections locales de décembre 2002 qui vont venir, qui d'ailleurs il va remporter. Et très vite, quelques semaines plus tard, février 2002, il y a un événement absolument tragique qui va provoquer une flambée de violence. Tout part de l'incendie d'un train dans lequel une soixantaine de personnes vont périr. Racontez-nous cet événement, la manière dont va y réagir Modi et toutes les réactions qui vont s'en suivre, Charlotte.
Oui, juste un petit mot sur sa carrière politique. Il est aussi rentré en politique parce qu'il a justement réussi à se faire adouber en fait au sein de l'appareil et ça a été un des seuls en fait à avoir cette fonction au sein du RSS, c'est-à-dire qu'il était agent de liaison entre guillemets entre le RSS et le BJP parce que lui-même a saisi en fait que le BJP était le entrer dans le BJP et entrer en politique était le seul moyen de faire advenir cet agenda au sens anglais du terme, très hindou, hindouisé de la politique, juste pour préciser ça. Et quant à 2001, effectivement, alors en fait, Narendra Modi, pardon, a aussi intrigué, le terme a l'air péjoratif, mais en tout cas, fait ce qu'il fallait pour, au sein du BJP, pour faire virer Keshubhai Patel, qui était son prédécesseur, parce qu'il avait l'intention lui-même d'arriver au poste de ministre en chef du Gujarat, tout en sachant qu'il ne pourrait pas remporter des élections dans un premier temps, étant donné le manque de connaissances qu'avait la population de lui, et que donc il fallait qu'il soit nommé à ce poste pour faire ses preuves et ensuite dérouler son programme. Donc effectivement, il arrive au pouvoir en septembre 2001, et là en fait, le BJP est un petit peu en perte de vitesse. On n'a pas précisé quand même que le Gujarat, l'état dont on parle, a été le premier état gagné par le BJP à l'échelle nationale en 1995, et c'est pour ça qu'il est surnommé le laboratoire de l'Hindutva, parce que c'est là que le BJP a fait les preuves.
C'est par hasard, si se retrouve ici.
Tout à fait. Et donc en fait, comment dire, quand il arrive au pouvoir, voilà, le BJP a perdu quelques élections intermédiaires, donc il faut en fait resserrer l'électorat. Et Narendra Modi est aussi choisi justement en raison de sa position très dure et du fait que ce soit un nationaliste dur au sein du BJP, parce que pour le caricaturer, et parce qu'on a, on rentre moins dans les nuances, mais pour le caricaturer, mais en même temps c'est un peu ça, en gros, le programme a été de dire l'ennemi c'est le musulman, donc agrégeons
l'électorat. Et cet événement absolument tragique va servir précisément.
Exactement. Et donc en fait, quand il arrive au pouvoir, puisque donc mon travail de thèse et l'ouvrage que vous avez la gentillesse de mentionner est basé sur ces événements, les entretiens que j'ai pu montrer, les gens m'ont relaté des recensements informels qui avaient lieu à la fin de 2001, où les musulmans en fait se faisaient recenser donc de façon informelle, comme je viens de le dire, ce qui fait que il y a plein d'arguments qui montrent en fait que ces événements ont été programmés, prévus, et que donc on arrive en février 2002 où, comme vous le disiez, en fait, un incendie dans un train en gare de Godhra fait 56 morts, principalement des hindous, mais des militants hindous qui revenaient du temple d'Ayodhya, donc qui avaient été là-bas pour construire un temple. Mais s'en suivent des échauffourées dans une gare. On ne saura jamais, parce qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé aujourd'hui, plus de 15 ans après. Et donc, quand ces hindous sont brûlés vifs dans ce wagon, en fait, dès l'arrivée du train en gare d'Ahmedabad, un des ministres de Narendra Modi de l'époque fait exposer les corps dans la gare, et en fait s'en suivent des appels à la violence et des appels à la vengeance contre les musulmans.
Parce que Modi déclare tout simplement que ce sont les musulmans qui
sont responsables de cet attentat. Voilà, il est attesté par plusieurs personnes, dont un officier de police qui est aujourd'hui en prison à perpétuité. Coïncidence, que Narendra, le soir même de cet incendie, une réunion informelle a eu lieu au domicile du ministre en chef, et qu'il a donné l'ordre de laisser faire les émeutiers et donc de les accompagner, puisque la police n'est pas du tout intervenue.
Il a jamais été condamné pour ça.
Voilà, dans ces événements, quand même, pour donner quelques données factuelles très importantes, plus de 2000 musulmans ont trouvé la mort, 850 selon le gouvernement, mais les rapports d'ONG s'accordent plus sur 2000 morts, 150 000 déplacés internes, qui vivent toujours aujourd'hui dans des camps de déplacés internes pour la plupart, et l'écrasante majorité de ces musulmans étaient des musulmans. Narendra Modi a été mis en cause à plusieurs reprises, également par un amicus, enfin, par la Cour suprême, mais il a été blanchi en 2012. Ouais. En revanche, une de ses ministres, elle, a fait de la prison parce qu'elle a été reconnue d'avoir emmené les émeutiers. Elle est sortie de prison juste pour raison de santé.
Ouais, quoi qu'il en soit, ce passif que vous décrivez, Charlotte Thomas, et ce discours anti-musulman va constituer au fond son fonds de commerce sur lequel il va proliférer pendant des années, ne ratant jamais une occasion de pointer du doigt les musulmans lorsqu'il y a des attentats. Je pense à Bombay 2006, je pense à Bombay 2008, et au fond, c'est ce qu'il va faire de lui une figure de premier ministrable, d'une certaine manière.
Alors, oui et non.
J'ai fait une erreur.
Voilà, oui et non. Non, si je puis me permettre, c'est juste que, en fait, oui et non, au sens où les conséquences des pogroms de 2002 ont quand même valu à Narendra Modi d'être interdit de visa en Union européenne et aux États-Unis.
Et aux États-Unis, c'est juste.
Et de fait, beaucoup de chefs industriels de l'époque se sont, en fait, émus de ce qui s'était passé en Gujarat en disant que ce genre de tension intercommunautaire n'était pas bon pour le business. On va voir que pour gagner le pouvoir, Narendra Modi va justement apaiser ce discours intercommunautaire.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes intéressé, vous, à un ouvrage multiséculaire écrit en sanskrit vers le 4e siècle avant notre ère. Hein, je l'ai découvert hier, je ne savais pas. L'Arthashastra, pardon, qui est donc le sous-titre de votre livre, l'Inde ancienne au chevet de nos politiques. L'Arthashastra qu'on pourrait traduire par science du politique, peut-être. C'est comme ça que j'ai lu. Voilà.
Artha, c'est la richesse, la prospérité, et Shastra, c'est le traité.
Alors voilà, donc c'est un ouvrage qui a été découvert relativement récemment, puisque c'était en 1905 dans un petit village du sud du pays. Qu'y a-t-il dans ce texte? Pourquoi il est intéressant pour comprendre la politique indienne et pour comprendre la manière dont Modi la déploie lui-même?
Parce que nous avons beaucoup l'habitude, et je pense une mauvaise habitude, nous en France en tout cas, en Occident plus généralement, de décrypter les situations internationales à l'aide de nos propres critères, de nos propres grilles d'analyse. Et ce que je découvre année après année, c'est qu'il faut se décentrer et comprendre que Narendra Modi, il est né dans un pays où la culture politique, c'est un ensemble d'ouvrages qui circulent soit sous forme savante, soit sous forme de proverbes. Hein, j'ai préparé un livre sur les fables indiennes, on en reviendra tout à l'heure, le Panchatantra. Bon. De même que Xi Jinping, si vous voulez, il naît à une époque où on traduit les 36 stratagèmes et l'art de la guerre de Sun Tzu. Donc si vous voulez comprendre ce que pense comment il pense, il faut faire référence à ses ouvrages. Pourquoi l'Arthashastra est important? Parce que vous avez des textes sacrés, le Ramayana, le Mahabharata, que, alors là, il connaît par cœur, Narendra Modi, par cœur, c'est vraiment impressionnant. Chaque shloka, on appelle ça des shlokas, hein, c'est des sortes de vers, si vous voulez, de maximes, il est capable vraiment de les réciter par cœur, et dans ses discours, très souvent, il fait des références à ces schémas. Et l'autre ouvrage séculier, si vous voulez, c'est donc l'Arthashastra, la science de la bonne gouvernance. C'est impressionnant le niveau de détail qu'il va donner sur deux sujets. Premièrement, les qualités du roi, et notamment sa moralité. Il y a aussi, à l'époque, c'est écrit pour l'empereur Maurya, qui va se convertir lui au bouddhisme, c'est aussi une très très bonne description des rapports entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Pour la première fois, il y a une séparation très nette dans un ouvrage de science politique. Narendra Modi, je pense, se veut et se présente, c'est ce que je raconte à propos de mon expérience au Gujarat, dans son réunion de gouvernement, comme le roi vertueux, qui fait attention à ses collaborateurs, se méfie des traîtres, utilise des espions, et probablement utilise cette machine de guerre anti-musulmane, très clairement, parce qu'on l'a comparé au traité de Machiavel, le prince, l'Arthashastra, parce qu'il y a effectivement dedans des
ça
tactiques utilisées, bien sûr, bien sûr. Mais à la différence de Machiavel, ça c'est la lecture que j'ai de l'Arthashastra, la question de la vertu et de la moralité sont absolument essentielles. Et il ne faut pas l'oublier, on est à la période, le 5e siècle dont vous parlez, où le bouddhisme émerge, le jainisme émerge. Contre qui? Contre l'hindouisme brahmanique. Hypocrite, schizophante, hein, le mot qui revient très très souvent, ce sont ces... en gros, les curés hindous sont des gens qui sont malhonnêtes, fondamentalement, et qui... il y a une très très belle expression, si vous me permettez, qui caractérise un peu Modi aujourd'hui quand même. Après avoir dévoré sans souris, le chat s'en va en pèlerinage. D'accord. Et ça, l'Arthashastra, il sait que ça, c'est le mauvais chat, donc il le décrit. Et le deuxième grand volet de l'Arthashastra, c'est la science de l'administration. Est vraiment décrit dans le menu détail, y compris le droit. Et de ce point de vue-là encore, il est évident que Narendra Modi a un agenda idéologique, il est porté par un appareil qui est celui de ces brahmanes hindous, mais que d'un autre côté, je le vois bien dans les gens qui travaillent avec lui, il y a aussi cette idée que l'Inde doit revenir à la bonne gouvernance de ses traités. Pourquoi je dis cela? Parce que derrière l'attaque contre les musulmans, on a dit que Narendra Modi avait été interdit de visa. C'était la meilleure publicité qu'il fallait faire, en fait, pour Narendra Modi. Toute immixtion de l'étranger aujourd'hui, c'est très important à comprendre, est utilisée par ces appareils-là, idéologiques, pour dire, c'est au contraire une preuve que nous avons un leader nationaliste endogène. Ça n'empêche pas qu'après Narendra Modi voyage, et il voyage beaucoup, comme jamais aucun de ses prédécesseurs. Mais quand il voyage, c'est en tant qu'hindou nationaliste. Il va à Paris, c'est quand même incroyable, pour célébrer la journée annuelle du yoga. Il parle de l'Ayurveda à l'UNESCO là, il y a quelques jours, quand il est passé à Paris, etc. Donc on est dans un registre où il faut faire très très attention à lire au travers, non pas de nos grilles, mais au travers des grilles historiques, culturelles de l'Inde, ces personnages. Comment ils réfléchissent? Plongeons dans ses racines politiques.
Une fois qu'on a fait ce petit travail de décentrage, Charlotte Thomas, revenons, recentrons les choses vers nous. Et c'est vrai que parfois, on décrit Modi comme un homme populiste avec tout le vague qui peut entourer cette formule-là. En tout cas, on le voit comme un homme extrêmement autoritaire, qui n'est pas forcément fondamentalement attaché aux principes démocratiques, en tout cas tels que nous les pensons nous-mêmes. Est-ce qu'on a raison? Je veux dire par là, est-ce que Modi constitue aujourd'hui une menace pour la démocratie au sens où nous la pensons aujourd'hui? On parle très régulièrement de démocratie libérale, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait effectivement un régime avec une façade effectivement démocratique, mais que derrière, en réalité, les institutions ne suivraient pas. Est-ce qu'il y a ce risque-là chez un Modi?
Alors déjà, juste, mais par rapport à nous, bon, quand on voit parfois le degré de répression des manifestations qui est un droit constitutionnel, on peut se demander nos crédits et nos standards démocratiques. Pour revenir à Narendra Modi. Alors, bon, le terme de populisme, je l'aime pas trop, parce que comme vous disiez, c'était très galvaudé, mais disons que si on prend une définition très rassemblée, qui est le fait de, par la communication, créer un peuple en s'adressant à lui, oui, Narendra Modi est un populiste, puisque de fait, et c'est ce qui fonctionne très très bien, il crée le peuple. Après, sur le rapport à la démocratie, pardon, donc si on entend par là des élections ouvertes, etc., bon, ça, d'un point de vue formel et institutionnel, le vote demeure, une démocratie représentative demeure. Après, effectivement, il y a des atteintes qui sont faites au principe de la liberté d'expression, mettons, mais je voudrais juste nuancer...
Lesquelles ?
Alors voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, par exemple, l'opposition aujourd'hui éprouve une très grande difficulté à s'exprimer, puisque dès qu'en fait poser une critique, ce qu'il faut comprendre, c'est que Narendra Modi se présente comme le père de la nation, le père du pays. Donc dans ce schéma, critiquer Narendra Modi, c'est critiquer la nation.
Mais donc on peut pas critiquer Narendra
voilà,
Modi.
Voilà, comme
on peut ou on peut pas.
Alors j'y viens. Comme les groupes de presse, par exemple, sont tenus par des groupes industriels extrêmement proches du pouvoir, il devient en effet de plus en plus compliqué de critiquer le pouvoir. On l'a vu notamment avec une journaliste très connue qui s'appelle Barka Diout, qui est victime de toutes les invectives sexistes et vraiment ignobles des trolls qu'on peut connaître. Donc non, dans les faits, on peut, très formellement, vous pouvez le faire, mais vous vous exposez à une volée de bois vert extrêmement violente. Et on a beaucoup parlé de Bolsonaro, les réseaux sociaux, etc., sur le rôle des réseaux. Mais depuis 2014, Narendra Modi est aussi grâce aux réseaux sociaux.
Liberté d'expression, la justice, voilà, c'est alors quand la même justice, un autre pilier.
La justice demeure indépendante. Pour autant... elle subit des assauts. Voilà. Je vois aussi. Elle demeure indépendante puisque elle
formellement.
Une instance voilà formelle qui aussi examine des recours. De fait, elle subit beaucoup de pression. Par exemple, la commission électorale également, qui pendant les dernières élections a fait des remontrances auprès de certains membres du BJP qui prêchaient la haine intercommunautaire, ce qui est interdit. Pour autant, ces remarques se sont arrêtées là et les gens n'ont pas été suspendus de campagne, ce qui était le cas avant. Donc en fait, effectivement, on voit que petit à petit, il y a des libertés qui sont reniées. Des journalistes, il y a une explosion du nombre de journalistes assassinés en pleine rue depuis 2014. Ce dont on parle beaucoup moins, les lynchages en pleine rue à mort, lynchages de musulmans, également de basse caste qui consomment de la viande brûlée. Ouais. Les chrétiens sont également
attention, il n'y a pas que les musulmans.
Et juste une chose quand même sur son rapport au pouvoir, il faut savoir que dans le nationalisme hindou, le fédéralisme n'est pas quelque chose qui est bien. La mise en exergue d'un pouvoir centralisé et autoritaire est valorisé. À ce sens, il s'inscrit complètement dans ça.
Vous parlez de son utilisation des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que Narendra Modi utilise aussi beaucoup la télévision. Je suis tombé sur un programme. Vous souriez d'avance, j'imagine que vous l'avez vu.
C'est parce qu'on le voit tous les jours, ce genre de programme.
Non, vous l'avez vu avec l'animateur britannique Bear Grylls qui présente cette émission qu'on pourrait traduire par « Seul face à la nature ». Barack Obama y avait participé et Narendra Modi y a participé également. Petit extrait.
You are the most important man in India. My job is to keep you alive, sir. So if a tiger comes like this, this is your protection.
What?
You're in charge.
But mere jo sanskar hai, wo mujhe marne ke sanskar nahi hai. Aur isliye.
Okay, I'll take the weapon.
Main aapke liye usko mere paas rakhunga.
Perfect. We're on the move. Let's go.
Voilà, Modi donc qui participe à ce programme télé dans le parc national Jim Corbett. On est au nord du pays, on est tout près de l'état du Jammu et Cachemire. Je le dis parce que c'est pas tout à fait un hasard. Le programme, il sort quelques jours après la décision de Modi de retirer, de suspendre le statut d'autonomie au Jammu et Cachemire. Ce qui, on s'en souvient, avait provoqué la colère de l'ennemi pakistanais. C'est difficile d'y voir totalement un hasard. Les tigres et autres bêtes féroces rencontrées, enfin, qu'il n'a pas rencontré finalement, mais qu'il est censé peut-être pouvoir rencontrer dans le programme, c'est évidemment une métaphore de la bataille menée contre le Pakistan voisin. On a du mal à y voir autre chose. Jean-Joseph Boileau, c'est pas là-dessus que je voulais vous entendre, sauf si vous voulez réagir. Mais sur la question du sécularisme, parce que évidemment, ce qui est très important en Inde, c'est cette dimension multiconfessionnelle, c'est son multiculturalisme, et il se trouve que bien sûr, chez Modi, chez les nationalistes hindous, on s'en prend précisément à ces partisans de cette vision de l'Inde multiconfessionnelle. Il y a même un mot pour les décrire, on parle de séculariste, c'est un néologisme. À partir des mots, sécularisme et sikh, donc des malades du sécularisme. Est-ce que le sécularisme, de même que je posais la question s'agissant de la démocratie, est-ce que le sécularisme indien est menacé avec Modi ?
Oui, bien sûr. je voulais quand même repréciser un tout petit peu. Populiste veut toujours dire populaire. C'est très compliqué. Narendra Modi a pris des mesures dans le domaine économique extrêmement populaires. Par exemple, les bouteilles de gaz dans les maisons pour se substituer à deux cochonneries. Les fours à bois en terre cuite qui noient les maisons, l'intérieur des maisons sous les fumées. Ou bien, plus dangereux encore, le pétrole liquide qui était la cause de tas d'accidents. Les femmes, il a été capable d'utiliser le fameux triple talac, hein, c'est-à-dire la façon dont on divorce en disant simplement trois fois, hein, je te répudie, je te répudie, je te répudie. Donc, il est capable de prendre des mesures populaires. Les toilettes pour tous, le balayage, même si c'est mis en scène. Moi, non, je l'ai vu sur le terrain, Charlotte. Vous ne pouvez pas dire que ça n'est pas vrai. Il y a eu un effort considérable qui a été fait. Donc, populaire. Et la différence avec populisme, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le populiste, lui, va menacer le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire la pluralité des opinions et le droit des minorités. C'est ça qu'il va faire, et donc créer un peuple. Donc oui, le sécularisme est menacé parce que ce qui était dit sur le fédéralisme, c'est-à-dire finalement la non-acceptation de la diversité linguistique, populaire, ethnique, etc. en Inde, il s'attaque à cela. Et il essaie de prendre le pouvoir dans tous les États. Il essaie, hein, leur obsession, c'est le grand chelem. Donc oui, il y a un risque de remise en cause de ce modèle qui est très particulier. Et c'est pour ça qu'il y a une fascination, d'ailleurs, de Xi Jinping, hein, de Modi, est fasciné par la Chine.
D'ailleurs, ils se sont vus très récemment.
Ils se sont vus pour
de très longues heures. On aura l'occasion d'en parler. On est avec vous, Jean-Joseph Boileau, et vous, Charlotte Thomas, autour de Narendra Modi et cette figure. On va parler en particulier du yoga et de l'usage qu'il en fait.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Le yoga représente l'unité de l'esprit, du corps, de la pensée et de l'action. Il est important de coordonner tous ces éléments. Le yoga représente des perspectives intéressantes en matière de santé et de bien-être. Ce n'est pas simplement un exercice physique, c'est un moyen qui permet d'entrer en communion avec le monde et avec la nature. Cela permet de changer de mode de vie. Cela débouche sur une prise de conscience et cela peut nous aider à lutter contre le changement climatique. Nous travaillons donc ensemble pour adopter une journée internationale du yoga.
Alors qu'il vient d'arriver au pouvoir, Narendra Modi fait son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel il évoque la question du yoga. Il expose ses bienfaits en matière de santé et de bien-être et propose qu'on adopte cette journée internationale du yoga. Pourquoi cet attachement de Modi au yoga? D'où vient-elle et que révèle-t-elle de la politique qu'il mène et de la manière dont il veut projeter l'image de son pays? On va retrouver Marie Coq, qui est journaliste. Vous êtes auteur de Yoga, une histoire monde. Marie Coq, pourquoi cet attachement de Modi au yoga? Que vise-t-il lorsqu'il propose l'adaptation de cette journée internationale?
Alors effectivement, il va viser plusieurs choses, parce que ce qui était très étonnant, c'est que quand il arrive au pouvoir, c'est quasiment une de ses priorités en fait. Il va, par exemple, dans ses premières mesures, il va nommer un ministre du yoga, par exemple, où il n'y en avait pas, qui va être aussi en charge des médecines traditionnelles, etc. Et puis très vite, il va communiquer, alors d'abord sur son propre attachement au yoga. Donc lui-même clame assez rapidement que c'est un yogi convaincu, qu'il est végétarien, qu'il fait ses asanas tous les jours. Il va aller rendre visite à son gourou à Rishikesh, et puis assez rapidement aussi, il va mettre en ligne des petites vidéos de lui en train de faire des postures. Donc déjà, il va communiquer sur le fait qu'il est lui-même un yogi convaincu, acharné depuis longtemps. Et puis effectivement, il va proposer assez rapidement sur la scène internationale de promouvoir le yoga. Il va faire pour deux raisons. Donc la première, qui est peut-être un peu plus évidente et un peu plus simple, c'est de remettre, en fait, de se réapproprier le yoga, qui a subi des grosses phases de mondialisation et qui est vraiment étendu partout et parfois quitte à en oublier un petit peu l'origine. Donc il va se réapproprier cette origine du yoga. Ça va être très très important. Mais effectivement, il va y avoir une forme d'agenda caché dans tout ce soft power par le yoga, qui est que assez rapidement, en fait, il va non seulement se réapproprier le yoga, mais rappeler dans chacun des discours qu'il fera sur le yoga, que le yoga est une pratique qui remonte vraiment aux origines multimillénaires de l'Inde.
Oui, parce que c'est ça.
Ça va poser problème.
Oui, c'est ça, Marie-Coque. Il y a deux choses, en fait. Il y a d'abord le devant de la scène, donc effectivement, cette première édition de la Journée internationale du yoga, où on voit des gens partout sur Times Square, sous la Tour Eiffel, faire du yoga. On voit effectivement Narendra Modi participer à cette journée, vêtu de blanc, avec une écharpe de couleur, conduisant les exercices devant quelques 35 000 pratiquants. Ça, c'est pour le devant de la scène. Et puis, il y a le derrière de la scène. Parce que, évidemment, vous expliquez dans votre livre, Une histoire monde, Yoga, une histoire monde, que le yoga, il a une fonction particulière, à savoir glorifier la composante hindoue de l'Inde avec un retour aux valeurs supposément originelles. Modi, écrivez-vous, aime à rappeler que la vision, je vous cite, la vision du monde de chaque pays est forgée, enfin plutôt je cite Modi, la vision du monde de chaque pays est forgée par ses traditions philosophiques et par la civilisation qui est la sienne, et que celle de l'Inde, je cite encore, découle d'une antique sagesse qui voit le monde entier comme une seule famille. Sauf que ici, la famille, elle fait pas référence à l'universalité des peuples, c'est autre chose.
Non, non, pas du tout. Effectivement, il va glorifier la composante hindoue et c'est surtout, il va se servir du yoga. Alors, même si, évidemment, il va jamais le dire comme ça, mais certains de ses ministres pourront s'en charger, mais qu'en fait, il va se servir du yoga comme un outil de lutte contre les minorités et en premier lieu contre les musulmans. Parce qu'effectivement, il va, chaque fois qu'il rappelle une espèce de pureté originelle de l'Inde par le yoga, parce que c'est son plus gros, parce que voilà, le yoga est la pratique la plus ancienne, la sagesse la plus ancienne de l'Inde, il exclut de fait tous les musulmans, qui sont aussi parfois, de façon beaucoup plus littérale en Inde, très mal accueillis dans les cours de yoga, quoi. Donc, effectivement.
Alors, il y a cette dimension anti-musulmane à travers dans le yoga, mais il y a aussi une autre dimension que vous évoquez dans votre livre, c'est que historiquement, le yoga, ça a été une arme de lutte contre l'oppresseur britannique. Expliquez-nous comment il a été utilisé contre la domination coloniale.
Alors en fait, il va être utilisé effectivement pour dire aux Britanniques qui leur imposent leur propre modèle que eux, ils avaient déjà de toute façon une science, une médecine, une spiritualité et une philosophie complète qui est au moins égale, voire supérieure à la leur et surtout qui est antérieure à leur venue. Et ça, effectivement, ça va commencer. Alors, la grosse phase, ça va être plutôt au début des années 20. Mais il y a un précédent quand, dans cette histoire. C'est par exemple quand il y a Vivekananda qui va au Parlement des religions à Chicago. Donc là, on est à la fin du 19e. Il va faire un grand discours. Donc c'est la première fois comme ça que les États-Unis voient un hindou sur scène parler d'égal à égal, enfin bon, plus ou moins d'égal à égal avec les autres religions. Et lui, il va faire un discours qui va être complètement à contre-courant de l'époque, puisqu'il va dire en fait que l'Inde est supérieure spirituellement et que l'hindouisme est supérieur de façon spirituelle. C'est des choses qu'on va revoir ensuite après tout au long du siècle, notamment à Woodstock par exemple. Il va y avoir un swami comme ça qui va faire un discours qui a été très entendu à l'époque, où il va arriver en disant OK, vous les États-Unis, vous êtes supérieurs matériellement, mais nous on va être nous spirituellement on est supérieurs. Donc il va y avoir comme ça une série de yogis qui vont partir en Occident, donc officiellement pour sauver l'Occident spirituellement. Mais là encore, il y a effectivement une double vision, puisque l'idée, c'est quand même de rendre le yoga pas célèbre, mais en tout cas efficace, démocratiser le yoga ailleurs, mais en Occident non colonial, donc c'est-à-dire plutôt les États-Unis, en espérant qu'ensuite ça rejaillisse sur l'Inde, ce qui s'est passé. Donc ça, c'était effectivement très bien calculé. Et puis vraiment dans l'idée de réaffirmer l'antériorité de cette pratique et de cette philosophie, de cette médecine.
En tout cas, vous rappelez dans votre livre que c'est dans ce contexte de lutte contre l'oppression coloniale que se forge dès les années 1920, le concept d'hindouité, l'hindouvta, avancé par Vinayak Damodar Savarkar. Alors qu'il purge une peine de prison pour ses liens avec des groupes révolutionnaires, il va inventer ce terme pseudo-sanskrit qui aujourd'hui a pris un essor très important, évidemment, avec l'émergence du BJP de Modi. Donc c'est dans ce contexte de lutte contre l'Empire britannique que se renforce cette idée selon laquelle l'Inde appartiendrait aux hindous. En Inde, on n'aime pas beaucoup, Marie Koch, visiblement, que l'on s'intéresse à cette politisation du yoga. En tout cas, ça ne plaît pas beaucoup aux autorités, et en particulier lorsqu'il s'agit d'étrangers. C'est ce que vous racontez, par exemple, de cette professeure américaine invitée à l'université Nalanda, dans l'état du Bihar. Vous nous racontez ?
Oui, en fait, c'est effectivement une professeure qui, suite à des déclarations... alors de ministres yogis aussi, là, qui avaient fait des déclarations clairement anti-musulmanes, notamment en disant voilà que ceux qui refusaient de se saluer devant le soleil n'avaient qu'à aller se jeter dans le fleuve ou quelque chose comme ça, et puis qui menaçaient aussi d'aller mettre des statues de divinités hindoues dans toutes les mosquées en Inde. Donc bon, c'était un message assez clair. Et elle avait voulu faire réagir ses étudiants sur cette question-là. Et en fait, quand elle a commencé à mêler yoga et politique dans ses cours, subitement, en fait, pour la faire courte, elle s'est fait virer sans aucune explication et surtout sans ménagement. Mmh. Et effectivement, et ensuite, il y a eu toute une polémique sur Twitter, etc., où c'est par Twitter qu'elle a appris aussi que voilà, le yoga ne devait pas s'embarrasser de politique, quoi. Mmh. Donc c'est effectivement c'est vrai en Inde, mais ce qui est très compliqué aussi, c'est que cette histoire n'intéresse pas beaucoup les yogis. Par exemple, quand on veut expliquer aussi les liens entre aujourd'hui, entre le yoga et l'agenda caché de Modi, les yogis, ceux qui pratiquent, n'ont pas très envie non plus d'entendre cette histoire. Donc c'est effectivement un lien qui est difficile à raconter.
Ouais, les yogis n'aiment pas tellement cette idée d'une politisation du yoga.
Non, pas du tout. Ils se sentent un peu dépossédés de leur pratique, mais voilà, je pense qu'on peut quand même savoir et sans se sentir dépossédés. Donc voilà.
Merci beaucoup à vous, Marie Koch, d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes donc auteur de Yoga, une histoire monde, qui était paru à la Découverte l'année dernière. Charlotte Thomas, un grand merci. Vous voulez dire un tout dernier mot en guise de conclusion?
Oui, je pense que juste pour conclure, mais il est important de retenir deux choses sur le populisme. Comme on l'a dit, qu'il y a certes ce culte de la personnalité, mais qu'il ne faut pas du tout oublier tout l'appareil qu'il y a derrière, tous les gens qui travaillent sur le terrain et qui ont enraciné les idées nationalistes hindoues très profondément dans la société via un travail social auprès des Indiens / hindous. Et puis la deuxième chose, c'est un petit peu quand même comme on Narendra Modi réinvente le nationalisme hindou, notamment avec la jambe économique, l'ouverture vers le reste du monde, ce qui n'est pas du tout quelque chose qui est à la base dans le nationalisme hindou, et montrer, voilà, et ce culte de la personnalité qui n'est pas non plus à la base au cœur du nationalisme hindou, et voilà, montrer Narendra Modi aussi comme un réinventeur du nationalisme hindou.
Alors évidemment, vous avez tout à fait raison, il se trouve qu'aujourd'hui on avait choisi de centrer autour de cette figure de Narendra Modi, que par ailleurs on s'était beaucoup intéressé à son bilan juste avant les élections précisément, et notamment à son bilan économique. Un grand merci à vous également, Jean-Joseph
Merci
Boileau.
À vous surtout.
Je rappelle, allez, deux de vos ouvrages, l'Inde ancienne, au chevet de nos politiques, ça s'était paru aux éditions du Félin, Shindi Afrique, ça c'était chez Odile Jacob, vous, Charlotte Thomas, Pogrom et Ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine, c'était chez Cartala, on va mettre tout ça sur la page de Culture Monde. Tout de suite, notre gourou à nous, si je puis dire, Brice Couturier, Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Homme.
Alors Brice, après les collapsologues, vous nous avez promis les techno-optimistes.
Eh ben les voilà Florian. Si l'on en croit les Canadiens Johanna Schurmack et Pierre Desrochers, auteurs d'un livre consacré à répliquer aux prophètes de la fin du monde écologique, intitulé Population Bombed, Exploding the Link Between Overpopulation and Climate Change, eh ben les arguments opposés par les éco-optimistes aux éco-pessimistes tourneraient autour de deux idées fortes. Un, plus un groupe humain concentre de cerveau, plus il est susceptible de bénéficier de cette intelligence collective pour trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, la surpopulation est un faux problème. Deux, le progrès technique est cumulatif. Toute civilisation construit son savoir de manière progressive. Elle acquiert les moyens de régler les problèmes qu'elle rencontre au fur et à mesure qu'ils se présentent. Car, comme l'écrit Steven Pinker, le plus optimiste des éco-optimistes, le progrès ne peut pas toujours être uniforme et les solutions aux problèmes créent de nouveaux problèmes. Les civilisations évoluées pratiquent une intelligente spécialisation. Il leur faut en outre, toujours selon Pinker, renoncer aux illusions de la foi, du dogme et de l'autorité qui sont des fauteurs d'illusions. Oser critiquer donc les méthodes du moment afin d'en imaginer d'autres plus efficaces, plus productives. Mais dira-t-on, que faites-vous des fameux cas d'effondrement que les collapsologues nous citent ? Nous aussi, civilisation, nous savons que nous sommes mortels, n'est-ce pas ? Et nous pourrions bien finir comme les Mayas, les habitants de l'île de Pâques ou la civilisation mycénienne. Toutes sortes de documentaires sérieux, de livres importants leur ont été consacrés, dont le best-seller universel de Jared Diamond, souvenez-vous, « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Tous méditent sur ces précédents. Eh bien, les sociétés en question, nous avertissent-ils, ont péri d'avoir détruit leur environnement en le surexploitant. Ainsi, les habitants de l'île de Pâques, selon Jared Diamond, auraient provoqué un désastre écologique en coupant tous les arbres. Et ils seraient demeurés prisonniers sur leur île, incapables d'échapper à leur suicide écologique. Les Mayas, eux, auraient été victimes d'années consécutives de sécheresse provoquées par la surexploitation des sols. Et les Mycéniens, d'une famine due à la surpopulation.
Voilà, bien des avertissements, Brice.
Bah, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Selon l'archéologue britannique Guy Middleton, auteur d'un livre intitulé « Understanding Collapse, Ancient History and Modern Myth », les États mycéniens se sont effondrés, c'est vrai. Les fameux mégarones où siégeait leur roi 1400 ans avant notre ère ont été abandonnés, c'est encore vrai. Mais rien ne prouve que la vie des paysans dans les campagnes environnantes en ait été changée d'un iota. Rien n'atteste, aux yeux des archéologues, l'existence de la fameuse famine imaginée par certains historiens. D'ailleurs, si les États se sont effondrés probablement pour cause de conflits entre eux, la civilisation mycénienne, elle, n'a pas disparu, elle s'est juste transformée. Même chose pour les Mayas. Leur empire était probablement constitué de 60 à 70 États relativement indépendants. À la fin de la période dite classique terminale, oui, certains entre eux ont périclité. Il y a eu des guerres dont nous ne savons rien puisque ces imbéciles de prêtres espagnols ont brûlé la quasi-totalité des codex. Il y en avait plusieurs milliers que les Mayas conservaient et dans lesquels ils conservaient leurs mémoires et leurs archives. Mais si certaines des cités Mayas étaient en effet déjà désertées lorsque les Espagnols y ont pris pied au XVIe siècle, il est inexact de prétendre que l'Empire Maya s'était alors effondré. Non, de nouvelles cités avaient été bâties ou rebâties comme Chichen Itza, Mayapan ou Uxmal. Quant à l'île de Pâques, il semble bien que le soi-disant désastre écologique soit d'une invention toute récente. Les premiers explorateurs comme Jacob Roggeveen en 1722 écrivirent qu'ils trouvèrent sur l'île en abondance sucre de canne, volailles, ignames, poissons, crabes et crustacés. Les Iliens avaient à cette époque développé des techniques agricoles fort intelligentes. Ils utilisaient sur des cultures en terrasse des cailloux pour prévenir l'érosion des sols. Il semble bien que la population de l'île n'ait jamais dépassé les 4000 personnes et que les ressources de l'île de Pâques étaient largement suffisantes pour les nourrir. Quant aux fameuses sculptures qui auraient causé le déboisement, et que les sculptures monumentales qui ont fait la réputation de l'île de Pâques, les Moai, elles étaient encore toutes dressées à la verticale en 1722, mais les habitants avaient simplement cessé de les vénérer, ils avaient changé de culte. Ce sont les maladies apportées par les Européens et les raids meurtriers opérés par les trafiquants d'esclaves qui ont bel et bien dépeuplé l'île de Pâques et non pas un désastre écologique d'imagination récente. Selon l'archéologue Guy Middleton, c'est notre conditionnement culturel qui nous pousse à privilégier les scénarii les plus catastrophiques. Nous projetons sur un passé que nous connaissons fort mal les fantasmes d'apocalypse que nous nourrissons vis-à-vis de notre propre avenir. Mais le pire, lui, n'est jamais sûr.
Mais il est possible aussi.
Mais il est possible aussi.
Merci Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, Brice. Dans un très court instant, c'est Olivier Gesbert et la Grande Table.